Et à la lumière d'une lampe de chevet, toujours un carnet dans la poche, elle avait compris que quelque chose se tramait. On ne peut rien cacher à une mère. À la mi-août, mon père m'avait emmené à la clinique retirer mon plâtre, et à mon retour, je l'avais trouvée assise dans ma chambre, mon tas de feuilles sur les genoux. Sans lever les yeux, elle m'avait dit « Il y a du travail, mais tu tiens quelque chose. À partir de demain, nous nous y mettrons sérieusement. » Le jeu avait été stoppé net. Il s'était métamorphosé en une entreprise familiale, Bird, mère et fils. Pendant 3 mois, elle avait fait des recherches, refusant toute approximation historique, annoté le travail du jour, repris, remanié, et puis un vendredi soir, insatisfaite de mes corrections, elle était repartie dans notre maison d'été en emportant le tout, me dépossédant du moindre feuillet, et 2 semaines plus tard, elle était revenue et m'avait tendu un paquet. Toute l'histoire était réécrite, tout s'articulait à merveille. Elle avait produit un chef-d'œuvre, et elle me remettait ce chef-d'œuvre en me disant que j'avais fait du bon travail, alors qu'il ne me devait plus rien. Le lundi suivant, elle s'était rendue dans le bureau de mon père, elle avait pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, serrant le manuscrit contre elle comme s'il s'agissait d'une excroissance de son fils, et, pénétrant dans le bureau de son mari, elle lui avait dit qu'il serait le dernier des crétins de ne pas publier mon livre sous prétexte qu'il était mon père. Que pouvait-il dire? Le livre avait été publié, la critique m'avait encensé. Il n'y avait qu'elle et moi pour savoir qui en était réellement l'auteur. J'étais passé du statut de jeune homme oisif à celui de prodige de la littérature. On m'invitait partout. Le livre était traduit sur tous les continents, mais j'avais en permanence un goût d'imposture dans la bouche. J'étais entré dans la lumière tandis que ma mère restait invisible, ne formulant jamais l'évidence. Ce livre était le sien. Elle était retournée à ses mondanités, à sa vie de femme dans l'ombre d'un mari et désormais d'un fils. Quelques années plus tard, j'avais tenté de rééditer l'exploit, mais cette fois en rejetant son aide. J'étais orgueilleux. Je ne voulais plus lui être redevable. Le livre avait été gentiment accueilli. Les critiques n'y avaient pas trouvé leur compte sans savoir qu'il y manquait sa patte. Je n'étais plus un jeune premier, et à 30 ans à peine, il fallait croire que j'avais déjà perdu la fraîcheur de la jeunesse. Et quand on a perdu sa jeunesse, que fait-on pour la retrouver? Je suis redevenu oisif, bâclant mes cours, me refusant à travailler sérieusement pour si peu d'honneur. Mon père désapprouvait ma nonchalance, mais quelle importance qu'un parent désapprouve si l'autre adhère? Ma mère continuait à adhérer aveuglément parce que j'étais son fils, parce qu'elle avait concentré toute son attention sur moi, et je le lui rendais bien puisque j'aimais la lumière, j'aimais être choyé, j'aimais être adoré. Elle avait fabriqué un leurre, un jeune homme délicieux, le fils de son digne père, le fils de son exquise mère, même si je crois qu'elle était bien trop intelligente pour y croire. Il n'y avait de place pour rien d'autre que son désir et le mien. Le mien surtout. Mon désir s'était reporté sur le sexe. Je consommais les femmes sans modération. Pourquoi se priver puisque ma mère approuvait? Je me demande par quelle volonté de revanche elle souhaitait autant de mal à son propre genre pour me laisser me comporter comme un affreux donjon de l'Upper East Side. Ici, plus de jeunes femmes diaphanes à charmer, plus de cœurs à briser. Rien que des filles aux joues roses, élevées au grand air, faites pour durer, faites pour ce qu'on leur demande. Du moins, c'est ce que j'imaginais en arrivant dans ce coin perdu. Mais il se place toujours sur mon chemin quelque chose qui fait tout dérailler, quelque chose que je repousse et qui revient sans cesse. Je commence à comprendre le sens de ces actions répétées. Lever, appel, petit déjeuner, douche, cellule, repas, promenade, cellule, temps libre, repas, appel, coucher. Il faut nous ramener à ce statut de gamin pour qui tout est décidé à l'avance par des parents intraitables. Bien sûr, les gardiens n'échappent pas aux crises de nerfs, aux grands enfants qui résistent à cette tenue beige qui bouloche, à cet uniforme ingrat, si loin des soies, cachemires et lins qu'ils n'ont sans doute jamais effleurés. De temps